j'ai découvert, Pessoa.
Antonio Tabucchi.
J'ai découvert qu'il avait fait une opération très très étrange, très très forte, parce que à travers la poésie, à travers la création des poètes, il avait créé un univers romanesque.
Ça peut pas faire de mal.
Cet homme-là a su donner les sauts mortels. Il a fait une pirouette incroyable. Il prend la poésie, il crée des poètes, il élimine les plateaux du théâtre, mais il crée un univers romanesque. C'est le grand roman du XXe siècle.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
La nuit et le chaos font partie de moi. Je remonte au silence des étoiles. Je suis l'effet d'une cause du temps de l'univers. Pour me trouver, je dois me chercher parmi les fleurs, les oiseaux, les champs et les villes, dans les actes, les mots et les pensées des hommes, dans la lumière du soleil et les ruines oubliées des mondes aujourd'hui disparus. Plus je grandis, moins je suis. Plus je me trouve, plus je me perds. Plus je m'éprouve, plus je vois que je suis fleur et oiseau et étoile et univers. Plus je me définis, moins j'ai de limites. Je déborde tout. Dans le fond, je suis le même que Dieu. Ma présence actuelle contient les âges antérieurs à la vie. Les temps plus vieux que la Terre, les trous de l'espace avant que le monde soit. Dans la nuit où sont nées les étoiles, j'ai commencé à me consteller d'être. Il n'y a pas un seul atome de la plus lointaine étoile qui ne participe à mon être. Parce qu'Alfonso Henriquez a existé, je suis. Parce que Nun Alvarez a combattu, j'existe. Je serai autre, je ne serai pas donc si Vasco de Gama n'avait pas découvert la route des Indes. Shakespeare fait partie de moi. Cromwell a travaillé pour moi quand il a construit l'Angleterre. En triomphant de Rome, Henri VIII a fait de moi ce que je suis. Pour moi, Aristote a pensé et Homère chanté. En un sens mythique et profond véritablement, le Christ est mort pour moi. Il y a 2000 ans, un mystique indien dont j'ignore s'il a existé a pris part à mon être actuel. À ma présence d'aujourd'hui, Confucius a édicté une morale. Le premier homme qui a découvert le feu, celui qui a inventé la roue, celui qui a conçu la flèche, si aujourd'hui je suis, moi, c'est parce qu'ils ont existé.
Ce texte s'intitule « Anarchisme ». Il a été retrouvé parmi des milliers d'autres dans une grande malle en bois, au cœur de Lisbonne, dans l'appartement de Fernando Pessoa. Ce soir, découvrons donc l'œuvre labyrinthique du poète aux mille visages, celui dont le nom Pessoa signifie en portugais « personne ». Il a créé près de 70 hétéronymes, autant de masques qu'il enfilait pour s'inventer, se rêver et tenter de se comprendre. Alexander Search, Alberto Cairo, Alvaro de Campos, Ricardo Reis ou encore Bernardo Soares, à travers ses avatars, Pessoa a construit son propre théâtre, celui où peuvent s'exprimer ses questionnements, ses angoisses et ses conflits intérieurs. De ses odes à son fameux livre de l'intranquillité, en passant par l'une de ses rares pièces de théâtre achevées, levons le voile sur cet écrivain tourmenté, chef de file du modernisme au Portugal, amoureux fou de sa ville natale, Lisbonne, où il meurt en 1935 à l'âge de 48 ans. Et pour lire avec moi ces textes, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau, à l'habitude de l'émission, l'un des premiers à avoir lu à mes côtés dans ce studio, le comédien et metteur en scène Éric Genovese. Bonsoir Éric, merci d'être avec nous ce soir.
Bonsoir Guillaume.
Quelle belle voix. Commençons par le journal de jeunesse de Fernando Pessoa, dont certains fragments sont regroupés dans l'ouvrage « Pessoa, un singulier regard » de Françoise Lay. Les jeunes années du poète sont marquées par la mort de son père, mais surtout par un long séjour à Durban, où il s'installe avec sa mère. Là-bas, il apprend l'anglais et commence l'écriture d'un journal dans lequel il exprime ses doutes et ses obsessions. Ses premières impressions existentielles mettent déjà en évidence le thème majeur de son œuvre à venir, l'inquiétude, ou plutôt l'intranquillité, terme qui donnera son nom à son ultime ouvrage. Nous sommes au début des années 1900, Pessoa a 20 ans à peine, et voici la définition qu'il donne de la poésie. La poésie existe en toutes choses, sur la terre et dans la mer, dans les lacs et sur les rives des fleuves. On la trouve aussi dans les villes. Elle est évidente pour moi, là même où je me trouve assis, dans cette table, cette feuille de papier, cet encrier, dans le brimbalement des voitures dans la rue, dans chaque geste infime, trivial et dérisoire de l'ouvrier qui peint de l'autre côté de la rue l'enseigne d'une boucherie. Mon sens intérieur domine à tel point mes cinq sens que je vois les choses de cette vie, j'en suis convaincu, différemment des autres. Il existe, ou il existait pour moi, une signification d'une grande richesse dans une chose aussi ridicule que la clé d'une porte, un clou dans le mur, les moustaches d'un chat. Je trouve une sorte de plénitude spirituelle dans une simple poule et ses poussins traversant crânement la route. Je trouve une signification plus profonde que les peurs humaines dans l'arôme du santal, dans les boîtes de conserve jetées sur un tas d'ordures, dans une boîte d'allumettes tombée dans le caniveau, dans deux bouts de papier crasseux qui, par un jour de grand vent, tournoient et se poursuivent en dévalant la rue. Car la poésie, c'est la stupeur, l'éblouissement d'un être tombé du ciel et prenant pleine conscience de sa chute, abasourdi de ce qu'il voit. Tel un être qui aurait connu l'âme même des choses et qui tenterait de se rappeler cette science passée, se souvenant de les avoir connues sous un aspect différent, sous d'autres formes et dans d'autres situations, mais qui ne se souviendrait de rien d'autre. Quelques années plus tard, en 1914, Pessoa a une révélation. C'est à la fin de sa vie qu'il racontera enfin ce qui s'est réellement passé ce jour du 8 mars 1914. Un jour où j'avais finalement renoncé. Je m'approchais d'une haute commode et, prenant une feuille de papier, je me mis à écrire, debout, comme je le fais chaque fois que je peux. Et j'ai écrit 30 et quelques poèmes d'affilée dans une sorte d'extase dont je ne saurais définir la nature. Ce fut le jour triomphal de ma vie et je ne pourrais en connaître d'autre comme celui-là. Ce fut l'apparition en moi de quelqu'un. Le texte dont il est question s'intitule « Le gardeur de troupeaux » et Pessoa le signe sous le pseudonyme d'Alberto Cairo. Voici le texte d'ouverture du recueil.
Je n'ai jamais gardé de troupeaux, mais c'est tout comme si j'en avais gardé. Mon âme est comme un berger, elle connaît le vent et le soleil, et elle va, guidée par la main des saisons, tout à suivre et à regarder. La paix entière de la nature sans personne vient s'asseoir à côté de moi. Mais moi, je demeure triste comme un coucher de soleil, selon notre imagination, quand l'air fraîchit tout au fond de la plaine et que l'on sent que la nuit est entrée comme un papillon par la fenêtre. Mais ma tristesse est tranquillité, parce qu'elle est naturelle et juste. Et qu'elle est ce qui doit se tenir dans l'âme dès lors qu'elle pense qu'elle existe et que les mains cueillent des fleurs à son insu. Comme un bruissement de sonnaille par-delà le tournant de la route, mes pensées sont contentes. Il y a que j'ai mal de les savoir contentes, parce que si je ne le savais pas, au lieu d'être contente, c'est triste, elle serait joyeuse et contente. Penser gêne autant que marcher sous la pluie, lorsque le vent s'accroît et que la pluie semble tomber plus fort. Je n'ai pas plus d'ambition que de désir. Être poète n'est pas une ambition pour moi. C'est ma façon d'être tout seul. Quand je m'assois écrivant des vers, ou que, me promenant par les chemins et les sentiers, j'écris des vers sur du papier qui se trouve dans ma pensée, je me sens une houlette dans les mains et je vois quelques silhouettes de moi-même au sommet d'une colline, regarder mon troupeau et voir mes idées, ou regarder mes idées et voir mon troupeau, et sourire vaguement, comme qui ne comprend pas ce qu'on dit et veut faire mine de comprendre. Je salue tous ceux qui me liront, en leur tirant mon large chapeau quand ils me voient sur le pas de ma porte dès que la diligence se dresse sur la crête de la colline. Je les salue et leur souhaite le soleil et la pluie quand la pluie est nécessaire et que leur maison possède au coin d'une fenêtre ouverte une chaise de leur prédilection où ils puissent s'asseoir tout en lisant mes vers. Et à la lecture de mes vers, puissent-ils penser que je suis une chose naturelle, par exemple l'arbre ancien à l'ombre duquel, encore enfant, il se laissait tomber, floc, fatigué de jouer, pour y essuyer la sueur de leur front brûlant sur la manche de leur tablier à rayures.
Ce jour triomphal va donner des ailes au jeune poète encore timide et incertain qui va multiplier les projets d'écriture et les pseudonymes. En 1915, il publie ce qui est aujourd'hui considéré comme son plus beau poème, l'Ode maritime. C'est l'ode la plus puissante et la plus longue écrite par Pessoa. Plus de 1000 vers composent ce poème futuriste qui a décontenancé le public de l'époque et continue d'interroger les lecteurs. Et derrière cette plume exaltée se cache Alvaro de Campos, le double extraverti de Pessoa. Sa voix est dynamique, impétueuse, violente parfois. En voici un extrait, la première partie du poème. Tout seul sur le quai désert dans ce matin d'été, je regarde du côté de la barre, je regarde vers l'indéfini. Je regarde et il me satisfait de voir, petit, noir et clair, un paquebot qui entre. Il vient là-bas très loin, bien net, classique à sa manière. Dans l'art lointain, il laisse derrière lui l'ourlet vain de sa fumée. Il vient, il entre et le matin entre avec lui. Et sur le fleuve, de ci, de là se réveille la vie maritime. Se dressent des voiles, s'avancent des remorqueurs. Surgissent de petits bateaux de derrière les navires qui sont dans le port. Il fait une vague brise, mais mon âme à moi se tient avec ce que je vois le moins. Avec le paquebot qui entre, car lui se tient avec la distance, avec le matin, avec le sens maritime de cette heure, avec la douceur douloureuse qui monte en moi comme nausée, comme le début de mal de mer, mais dans l'esprit. Je regarde de loin le paquebot dans une grande indépendance d'âme, et au fond de moi, une roue commence à tourner lentement. Les paquebots qui franchissent ce bon matin la barre apportent à mes yeux en eux le mystère joyeux et triste de qui arrive et part. Ils apportent des souvenirs de quais éloignés, d'autres moments, d'une façon de la même humanité dans d'autres ports. Tout accostage, tout appareillage de navire est, je le sens en moi comme mon propre sang, inconsciemment symbolique, terriblement menaçant de significations métaphysiques qui perturbent en moi qui je fus. Ah, tout quai est une saudade en pierre, et quand le navire se détache du quai, et que l'on remarque d'un coup que s'est ouvert un espace entre le quai et le navire, il me vient, je ne sais pourquoi, une angoisse toute neuve, une brume de sentiments de tristesse qui brille au soleil de mes angoisses couvertes de gazon, comme la première fenêtre où l'aurore vient battre, et qui m'entoure comme un souvenir d'une autre personne qui serait mystérieusement à moi. Ah, qui sait, si je ne suis pas déjà parti jadis, bien avant moi, d'un quai, si je n'ai pas déjà quitté, navire sous le soleil, oblique de l'aurore, une autre sorte de port. Qui sait si je n'ai pas déjà quitté, avant l'heure, du monde extérieur tel que je le vois, s'éclaircir à mes yeux, le grand quai plein de peu de gens, d'une grande ville à demi éveillée, d'une énorme ville commerciale, hypertrophiée, apoplectique, autant qu'il est possible hors de l'espace et hors du temps. Oh, fuite continuelle, départ, ivresse de divers, âme éternelle des navigateurs et des navigations, coq réfléchit lentement par les eaux quand le navire s'éloigne du port, flotter comme âme de la vie, s'en aller comme voix, vivre l'instant trépidamment sur des eaux éternelles, s'éveiller à des jours plus directs que les jours de l'Europe, voir des ports mystérieux sur la solitude de la mer, doubler des caps lointains vers de subits paysages vastes, parmi d'innombrables versants étonnés. Ah, les plages lointaines, les quais vus de loin. Et puis les plages proches, les quais vus de près. Le mystère de chaque départ et de chaque arrivée. Les douloureuses instabilités et incompréhensibilités de cet impossible univers à chaque heure maritime senti de plus en plus à pleine peau. L'absurde sanglot que nos âmes déversent sur les étendues de mer différentes, jonchées d'îles dans les lointains, sur les îles bien loin des côtés laissées en arrière, sur le net accroissement des ports avec leurs maisons et leurs gens devant le navire qui s'approche. Ah, la fraîcheur des matins où l'on arrive et la pâleur des matins où l'on part. Quand nos entrailles se nouent et qu'une vague sensation semblable à une peur, la peur ancestrale de s'éloigner et de partir, la mystérieuse crainte ancestrale de l'arrivée et du nouveau, nous rétrécit la peau et nous écœure, et que tout notre corps angoissé ressent, comme si c'était notre âme, une inexplicable envie de pouvoir sentir cela différemment. Une saudade pour quelque chose, un trouble d'affection pour quelle vague patrie, pour quel rivage, quel navire, quel quai, au point qu'en nous la pensée se rend malade et ne subsiste qu'un grand vide au fond de nous, qu'une creuse satiété de minutes marines, qu'une anxiété bien vague qui serait ennui ou douleur si elle savait comment le devenir. Toute la vie maritime, tout dans la vie maritime, s'infuse dans mon sang toute cette subtile séduction et indéfiniment je me plonge en pensée dans les voyages. Ah, les lignes des côtes lointaines aplaties par l'horizon. Ah, les caps, les îles, les plages sablonneuses. Les solitudes maritimes comme certains moments dans le Pacifique où sous l'effet de je ne sais quelle suggestion apprise à l'école, on sent peser sur ses nerfs le fait qu'il s'agit là du plus grand des océans et où le monde et la saveur des choses deviennent un désert au fond de nous. L'étendue plus humaine, plus éclaboussée de l'Atlantique, l'Indien le plus mystérieux de tous les océans, la Méditerranée douce, sans nul mystère, classique, une mer faite pour battre, ces vagues contre des esplanades observées de jardins proches par de blanches statues. Toutes les mers, tous les détroits, tous les golfes, toutes les baies, je voudrais les serrer sur ma poitrine, bien les sentir et en mourir.
Fado pessoano, num bairro de Lisboa, um poema lusitano, no dizer de Camões, uma gaivota em terra, um sujeito predicado, num porto esquecido, um barco ancorado. Levas o vento, meras palavras guarda no peito a ingenuidade, figura de estilo, tua voz na proa de um verso já gasto no olhar de pessoa.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Poursuivons cette aventure maritime avec un texte théâtral cette fois-ci, Le Marin. Poète ou dramaturge, Fernando Pessoa n'a jamais voulu choisir, préférant se définir tout simplement comme un poète dramatique. Son œuvre théâtrale demeure, il est vrai, plutôt méconnue, alors que c'est peut-être justement dans ses pièces qu'il exprime le mieux sa fascination pour les masques et les identités multiples. Avec Le Marin, un drame statique, en un tableau, écrit en 1915, Pessoa poursuit son projet initial, fuir la réalité pour se réfugier dans le rêve. La scène se déroule dans la tour d'un vieux château. Trois jeunes sœurs veillent sur une amie et, juste avant l'aurore, elles discutent pour oublier le temps.
Voulez-vous que je raconte ce que je rêvais au bord de la mer ? Je rêvais d'un marin qui se serait perdu sur une île lointaine. Sur cette île, il n'y avait que quelques palmiers, tout raides, des oiseaux tournoyaient autour. Je n'en ai pas vu se poser. Depuis qu'il s'était sauvé du naufrage, le marin vivait là. Comme il n'avait aucun moyen de revenir dans sa patrie, et comme il avait mal à chaque fois qu'il s'en souvenait, il se mit à rêver à une patrie qu'il n'aurait jamais eue. Il se mit à faire qu'une autre ait été la sienne, une autre sorte de pays, avec d'autres sortes de paysages et d'autres gens. À tout instant, il construisait en rêve cette fausse patrie et il ne cessait jamais de rêver, le jour, sous l'ombre mince des grands palmiers qui se découpaient, ourlés de pointes, sur le sol sablonneux et chaud, la nuit, allongé sur la plage, sur le dos, sans voir les étoiles.
Raconte, ma sœur, raconte. Mon cœur se brise à la pensée que je n'étais pas toi quand tu rêvais au bord de la mer.
Pendant des années et des années, jour après jour, le marin construisait en un rêve incessant son nouveau pays natal. Tous les jours, il ajoutait une pierre à cet édifice impossible. Il n'allait pas tarder à avoir un pays qu'il avait tant de fois parcouru.
Ma sœur, pourquoi est-ce que tu te tais ?
Il ne faut pas trop parler. La vie nous surveille toujours. Pour les rêves, toute heure est maternelle, mais il ne faut pas le savoir. Quand je parle trop, je commence à me séparer de moi et à m'entendre parler. Regardez, l'horizon a pâli. Le jour ne va plus tarder. Faudra-t-il que je vous parle encore de mon rêve ?
Raconte encore, ma sœur, raconte encore. N'arrête pas de raconter, ne fais pas attention aux jours qui naissent. Le jour ne se lève jamais pour qui pose sa tête sur le sein des heures rêvées.
Oui, je vais vous parler encore de mon rêve. Au début, le marin créa des paysages. Ensuite, il créa les villes. Puis il créa les rues et les chemins, les uns après les autres, les ciselant dans la matière de son âme. Une à une, les rues et les gens qui les parcouraient. Il en vint à connaître certaines de ces personnes. Il connaissait leur vie passée et leur conversation. Ensuite, éveillé, il voyageait à travers le pays qu'il avait inventé. Et ainsi, peu à peu, il construisit son passé. Bientôt, il eut une vie antérieure. Il avait déjà, dans cette nouvelle patrie, un endroit où il avait passé sa jeunesse, les ports où il avait embarqué.
Continue, même si tu ne sais pas pourquoi. Plus je t'écoute, moins je m'appartiens.
Un jour qu'il avait beaucoup plu et que l'horizon était très incertain, le marin se lassa de rêver. Il voulut alors se rappeler sa patrie véritable. Mais il vit qu'il ne se rappelait rien, qu'elle n'existait plus pour lui. Toute sa vie avait été la vie qu'il s'était rêvée. Il se rendit compte qu'il n'était pas possible qu'une autre vie eût existé. Puisqu'il ne se rappelait ni une rue, ni une silhouette, ni un geste maternel, alors que, dans la vie qu'il lui semblait avoir rêvée, tout était réel et avait été.
Ce rêve, comment continue-t-il ?
Je ne sais plus comment était la suite. Pourquoi faut-il qu'il y en ait encore une ?
Et qu'arriva-t-il après ?
Après ? Après quoi ? Y a-t-il quelque chose après ? Un jour, un bateau arriva. Oui, ça ne pouvait être que cela. Un jour, un bateau arriva et il passa tout près de l'île, mais le marin n'était plus là.
Et qu'avait-on fait du marin ? Quelqu'un le sait-il ? Et Est-il absolument nécessaire, même dans ton rêve, que ce marin et cette île aient existé?
Non, ma sœur, rien n'est absolument nécessaire.
Au moins, comment le rêve s'est-il terminé?
Il ne s'est pas terminé. Je ne sais pas. Aucun rêve ne s'achève. Est-ce que je sais réellement si je ne continue pas à le rêver, si je ne le rêve pas sans le savoir, si le rêver n'est pas cette chose vague qui s'appelle la vie? Regardez, il commence à faire jour. Regardez, le jour réel va arriver. Laissons cela, ne pensons plus. Ne cherchons pas à poursuivre cette aventure intérieure. Qui sait ce qu'il y a à la fin? Tout cela, mes sœurs, a disparu avec la nuit.
C'était si beau de t'écouter, mais la musique de ta voix, que j'ai écoutée plus encore que tes paroles, me laisse, peut-être parce que ce n'est qu'une musique, insatisfaite.
Tout laisse insatisfait, ma sœur. Les hommes qui pensent se lassent de tout, parce que tout change. Les hommes qui passent le prouvent, parce qu'ils changent avec tout. Le rêve seul est éternel et beau. Peut-être qu'on ne rêve pas assez, mes sœurs, il fait déjà jour. Regardez, la ligne des montagnes s'émerveille.
Claude Régis.
On sent un désir éperdu pour la mer, mais pas la mer en tant que telle.
Illimité.
Voilà, c'est l'image même la plus frappante de l'illimité, donc de l'indéfini. Il préfère peut-être dire indéfini à infini. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Presque le désir à l'état sauvage, une aspiration oui. à tout vivre, à tout connaître.
Oui, mais c'est ça qui est fabuleux, c'est ce désir de l'universalité et de la totalité, et de ne pas distinguer l'unité du tout.
Du rêve à la décadence, voici maintenant l'une des rares fictions achevées de Pessoa. Un conte macabre datant de 1907 et signé par un certain Alexander Search, hétéronyme anglais de l'auteur. Pessoa a 19 ans quand il termine ce texte qui rend hommage à son maître de littérature fasciné par la folie des hommes, le rêveur par excellence selon lui, Edgar Allan Poe. La nouvelle s'intitule « Un dîner très original » et elle met en scène un personnage trouble nommé Prosit qui préside la Société gastronomique de Berlin. Lassé du manque de nouveautés dans le domaine culinaire, il invite les membres de son club chez lui à participer à un dîner qu'il promet inédit. Et il met au défi ses convives de trouver ce qu'il y a de si étonnant sur la table. Nous prîmes place en contenant une excitation qu'alimentait notre impatience, nos doutes et notre défiance intellectuelle. Ainsi, tous autant que nous étions, nous commençâmes à examiner minutieusement, attentivement, toutes les décorations et compositions florales se trouvant sur la table, mais aussi bien les motifs sur les assiettes, la disposition des couteaux et des fourchettes, les verres, les bouteilles de vin. Certains avaient déjà examiné les chaises. Un nombre non négligeable de convives, l'air détaché, avait fait le tour de la table, de la salle. L'un d'eux avait même regardé sous la table. Un autre avait parcouru de ses mains rapidement et prudemment le dessous de son plateau. Un membre avait laissé tomber sa serviette et s'était penché pour la ramasser en exagérant à un point frôlant le grotesque la difficulté de l'opération. Il avait voulu voir, m'expliqua-t-il plus tard, s'il ne se trouvait pas là une trappe destinée à un moment du banquet à nous engloutir ou à engloutir seulement la table ou la table et nous du même coup. Nous prêtions donc à toute chose une attention extrême. La première que l'on remarqua, c'est que le service était assuré par 5 domestiques noirs. On ne pouvait pas voir nettement l'expression de leur visage, qui déjà sombre eux-mêmes, se trouvait dans l'obscurité. Aussi étrange, aussi ahurissant que cela put paraître, je n'eus plus aucun doute. J'étais absolument convaincu que les 5 jeunes gentlemen de Francfort que Prosit attendait avaient pris l'apparence, pour l'occasion, des 5 domestiques noirs qui servaient le dîner. Plus je réfléchissais, plus cela me semblait extraordinaire. Il était probable, il était certain, que la blague de Prosit consista en cela même. Le dîner touchait presque à sa fin et nous arrivions au dessert lorsque Prosit nous proposa de porter un toast. Chacun fut surpris par cette idée. Pendant qu'on remplissait les verres, l'attitude du président se modifia radicalement. Il s'agita sur sa chaise, pris d'une grande excitation et de cette sorte de fièvre qui s'empare de celui qui veut parler et dévoiler un grand secret. Il semblait devenir fou, il ne tenait plus en place, se contorsionnait, grignait, souriait, grimaçait, riait, tout bas, sans raison, sans plus parvenir à se contenir. Il se fit un profond silence. Prosit se leva, ou plutôt il bondit, manquant de renverser sa chaise. « Messieurs, dit-il, je vais vous révéler mon secret, l'objet de la plaisanterie du défi. C'est très amusant. Vous vous souvenez que j'avais dit aux 5 jeunes gens de Francfort qu'ils seraient présents et qu'ils prêteraient leur concours à ce banquet de la façon la plus matérielle qui fût. Là est le secret, c'est là qu'il réside, veux-je dire. » Le président parla avec empressement, de manière incohérente, tout à sa hâte d'en arriver à l'essentiel. Puis, élevant la voix au point de crier, « Je bois, dit-il, à la mémoire des 5 jeunes gentlemen de Francfort qui furent présents en chair et en os à ce dîner et y apportèrent la contribution la plus matérielle qui soit. » L'air hagard, féroce, complètement fou. Il pointa son doigt tremblant d'excitation vers des restes de chair dans un plat laissé sur la table à sa demande. À peine ces mots furent-ils prononcés, qu'une horreur indescriptible s'empara de l'assemblée, comme mystérieusement glacée d'effroi. Sur le moment, nous fûmes tous accablés par cette inconcevable révélation. On eût dit dans l'intensité de l'horreur, dans son silence, que personne n'avait entendu, que personne n'avait compris. Une folie était venue nicher son horreur au cœur de la réalité. Un silence qui ne dura qu'un instant encore qu'il sembla devoir, par l'émoi suscité par sa profondeur, par l'horreur qu'il portait en lui, se prolonger pour l'éternité, s'abattit sur nous tous. Un silence tel que nul n'en avait jamais imaginé, jamais conçu. Je ne puis me figurer quelle expression chacun de nous devait avoir, mais sur ces visages devait se lire ce qu'aucune vision n'avait encore jamais embrassé. Et cela pendant un instant bref, destructeur, abyssal. Pendant un instant, comme les autres, je me rassis sur ma chaise et fixais Prosit avec une horreur qu'aucun mot ne saurait exprimer. Ensuite, tous les convives, emportés par une juste et incontrôlable rage, se ruèrent furieusement sur le cannibale, sur l'auteur dément de cet exploit des plus ignobles. Prosit était fou, mais à cet instant, nous l'étions tout autant. Je commençai par frapper l'infâme d'un coup de poing, puis me saisis de la carafe à vin qui se trouvait à mes côtés et la jetai avec une abjecte exultation mêlée de haine à la tête de Prosit. Son visage se couvrit d'un mélange de sang et de vin. « Jetons-le par la fenêtre !» hurla une voix terrifiante. « Par la fenêtre !» glapit un cœur formidable. Signe révélateur de la brutalité qui s'était alors emparée de nous, on ne trouva rien de mieux pour ouvrir la fenêtre que de la briser complètement. Plus d'une douzaine de mains animales, en se le disputant, se saisirent avec avidité de Prosit dont la folie était portée à son comble par une terreur inexprimable. Avec une précipitation toute déréglée, on le jeta par la fenêtre, mais il ne chuta point car il parvint à se retenir à une partie du châssis. Une nouvelle fois, ses mêmes mains l'agrippèrent plus fermement, plus sauvagement encore, et avec une conjonction de forces herculéennes, avec une entente, une harmonie parfaitement diabolique en un tel moment, elles firent basculer Prosit dans le vide en le propulsant avec une violence incalculable. Le président, avec un bruit sourd qui eût soulevé le cœur des plus solides, mais qui ramena le calme dans les nôtres, écumants et avides, s'écrasa sur la place, 1 mètre ou 2 au-delà du trottoir. Après quoi, pas un mot, pas un signe ne fut échangé. Chacun s'enferma dans l'abomination de soi-même avant de fuir la maison.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Menina, você que tem, que comigo se enfadou. Menina, você que tem, que comigo se enfadou. Será porque o seu neguinho aos seus pés não se curvou? Será porque o seu neguinho aos seus pés não se curvou? Será porque o seu neguinho aos seus pés não se curvou? Será porque o seu neguinho aos seus pés não se curvou? Façamos, meu bem, as pazes, de joelhos aqui estou. Façamos, meu bem, as pazes, de joelhos aqui estou. Façamos, meu bem, as pazes, de joelhos aqui estou. Aqui estou, aqui estou. Menina, você que tem, do que choras que te deu? Menina, você que tem, do que choras que te deu? Mas se chora, tenho razão de eu se enfadar comigo. Se chora, tenho razão de eu se enfadar comigo. Se chora, tenho razão de eu se enfadar comigo. Se chora, tenho razão de eu se enfadar comigo. Façamos, meu bem, as pazes, de joelhos aqui estou. Façamos, meu bem, as pazes, de joelhos aqui estou. Façamos, meu bem, as pazes, de joelhos aqui estou. Aqui estou, aqui estou.
Et pour conclure, découvrons quelques fragments de l'autobiographie sans événement de Fernando Pessoa, son chef-d'œuvre absolu plus connu sous le titre « Le livre de l'intranquillité ».
Robert Brochon, biographe.
Il y a dans le livre de l'intranquillité et dans le reste de l'œuvre de Pessoa, non seulement la mélancolie, mais aussi les stratégies qu'il invente pour en sortir, pour la vaincre. Il est le peintre, il est l'analyste de cette mélancolie, mais en même temps, il essaie, je crois qu'il réussit parfois à en sortir.
Débuté dès 1908 et laissé inachevé à la mort de l'auteur en 1935, cette œuvre est le travail de toute une vie. Il faudra attendre l'année 1982 pour que la totalité des 520 fragments soient enfin réunis et publiés. À travers ses textes en prose, souvent lyriques, Pessoa, ou plutôt son hétéronyme Bernardo Soares, raconte sa vie qui lui fait mal et observe, sans pouvoir réagir, l'intranquillité fondamentale de son esprit. Le terme d'intranquillité est d'ailleurs une invention de l'auteur lui-même, un néologisme qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, mais qui est aujourd'hui le mieux à même de définir l'univers si riche et si complexe de l'écrivain. Voici donc quelques extraits de ses confessions.
Entre la vie et moi, une vitre mince. J'ai beau voir et comprendre la vie très clairement, je ne peux pas la toucher.
Pour moi, écrire, c'est m'abaisser. Mais je ne puis m'en empêcher. Écrire, c'est comme la drogue qui me répugne et que je prends quand même. Le vice que je méprise et dans lequel je vis. Il est des poisons nécessaires, et il en est de fort subtils, composés des ingrédients de l'âme, herbes cueillies dans les ruines cachées de nos rêves, coquelicots noirs trouvés sur les tombeaux de nos projets, longues feuilles d'arbres obscènes agitant leurs branches sur les rives sonores des eaux infernales de l'âme.
Les pages où je consigne ma vie, avec une clarté qui subsiste pour elle, je viens de les relire et je m'interroge. Qu'est-ce que tout cela? À quoi tout cela sert-il? Qui suis-je lorsque je sens? Quelle chose suis-je en train de mourir lorsque je suis? Comme un homme qui tenterait de très haut de distinguer les êtres vivants dans une vallée, ainsi je me contemple moi-même depuis un sommet et je suis, malgré tout, un paysage confus et indistinct. C'est durant ces heures où s'ouvre un abîme dans mon âme que le plus petit détail vient m'accabler comme une lettre d'adieu. Je me sens perpétuellement sur le point de m'éveiller. Je me subis comme l'enveloppe de moi-même dans un étouffement de conclusions. Je crierais de bon cœur si mon cri pouvait parvenir quelque part. Je me suis plongé dans un sommeil profond qui se déplace de certaines sensations vers d'autres, comme un cortège de nuages. On dirait que je cherche, à tâtons, un objet caché je ne sais où, et personne ne m'a dit ce qu'il était. Nous jouons à cache-cache avec personne. Oui, je relis ces pages qui représentent des heures vécues pauvrement, de petits répits, des illusions, de grands espoirs déviés vers le paysage, des tristesses semblables à des pièces où l'on ne pénètre jamais. Chacun de nous a sa vanité, et cette vanité consiste à oublier que les autres aussi existent et ont une âme semblable à la nôtre. Ma vanité, ce sont ces quelques pages, certains passages, certaines questions. Je me suis relu? Faux. Je n'ose pas. Je ne peux pas me relire. À quoi cela servirait-il? Celui qui est dans ces pages, c'est un autre. Je ne comprends déjà plus rien.
Ne pas tenter de comprendre, ne pas analyser, se voir soi-même comme on voit la nature, contempler ses émotions comme on contemple un paysage, c'est cela. La sagesse.
Je ne suis personne, personne. Je ne sais ni sentir, ni penser, ni vouloir. Je suis le personnage d'un roman qui reste à écrire et je flotte, aérien, dispersé sans avoir été, parmi les rêves d'un être qui n'a pas su m'achever.
Qui donc me sauvera d'exister? Ce n'est pas la mort que je veux, ni la vie. Mais cette autre chose qui luit au fond de mon désir angoissé comme un diamant imaginé au fond d'une caverne dans laquelle on ne peut descendre.
Maelstrom noir, immense vertige autour du vide, aspiration d'un océan sans fin vers un trou dans le néant. Et dans ces eaux, plutôt ce vortex, flottent toujours les images que j'ai pu voir et entendre à travers le monde. Je n'ai jamais rien fait que rêver. Cela, et cela seulement, a toujours été le sens de ma vie. Je n'ai jamais eu d'autre souci véritable que celui de ma vie intérieure. Les plus grands chagrins de mon existence se sont estompés dès lors que j'ai pu, ouvrant la fenêtre qui donne sur moi-même, m'oublier en contemplant son perpétuel mouvement. Je n'ai jamais voulu être rien d'autre qu'un rêveur. Si l'on me parlait de vivre, j'écoutais à peine. J'ai toujours appartenu à ce qui n'est pas là où je me trouve et à ce que je n'ai jamais pu être. Tout ce qui n'est pas moi a toujours eu de la poésie à mes yeux. Je n'ai jamais demandé à la vie que de me laisser effleurer par elle, sans la sentir passer.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestugia, avec Jean-Louis Deloncle à la technique, a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Irène Menahem. Merci Eric Genovese d'avoir lieu avec moi ce soir. Merci infiniment.
Merci Guillaume.